Grande Femme, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante.
Und femme. Und femme, c'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis. Bonsoir et bienvenue dans Rome et Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8. Et oui, comme tous les mercredis, on se retrouve dans Onde Femme. C'est d'abord Rome et Ménage, 17h, 18h30. Et puis 18h30, 19h, c'est les informels de Radio Pleine Lune. 19h, les coups de cœur de Marjolaine sur les spectacles dans la région genevoise et française voisine. Aujourd'hui dans Remue-Ménage, eh bien je vous emmène dans une exposition que j'ai visitée il y a un mois de cela. C'était le jeudi 20 février. Exposition et j'avais été invitée par un carton un petit peu mystère, je l'avoue bien. Un joli carton carré rouge avec toute une série de collages de photos. Le titre, marqué en bas dans l'angle droit, « Environ 27 ans », entre parenthèses, peut-être un peu plus. Un peu surprise par ce titre, je regarde à l'arrière de la carte et je lis simplement un projet de Martin Anderfuren, Pauline Boudry, Anne-Julie Raccourcier, en collaboration avec Julie Haute, Ute Metterbauer, Ursula Biemann, Laura Cottingham, René Green, Sylvia Katefi, Kultsun Karamustafa et Martha Rossler. Je me dis, de quoi s'agit-il ? Mais je me dis si on m'invite et si on me dit si je peux transmettre, parce que ceci était écrit sur la carte d'invitation que j'avais reçue. Je me suis dit, cela concerne très certainement les femmes, alors j'y vais. Et effectivement, en l'occurrence, j'ai découvert que environ 27 ans, peut-être un peu plus, concernait les pratiques artistiques et le féminisme. Alors, j'ai été reçue dans l'exposition par les trois jeunes femmes, Martin Anderfuren, Pauline Boudry et Anne-Julie Raccourcier, qui sont à l'origine de ce projet, environ 27 ans, peut-être un peu plus, vous découvrirez de quoi il s'agira tout à l'heure. Et puis, elles m'ont fait partager leur projet, m'ont fait rencontrer deux autres femmes, leur professeur qui anime cet atelier aux Beaux-Arts, puisqu'elles ont fait ce travail dans le cadre de leurs études aux Beaux-Arts, et une des artistes qui a collaboré avec elles, en l'occurrence Ursula Biemann, qui est une artiste suissesse, parmi les autres 8 artistes avec qui les trois jeunes femmes ont collaboré. Certaines sont américaines, certaines sont anglaises, turques. Elles vous en parleront elles-mêmes plus en détail. Alors, je vous propose de vous emmener très directement à la salle de l'Athénée, où a lieu l'exposition, en l'occurrence à la salle Cronier. Et puis, c'est une invitation un peu particulière, parce que c'est la Société des Arts de Genève, la classe des Beaux-Arts, qui invitait l'atelier sous-sol des Beaux-Arts. Vous allez tout savoir ce que ça veut dire dans un tout petit moment. On vous expliquera comme on me l'a expliqué, puisque je dois vous l'avouer, je suis une complète néophyte en matière d'art contemporain, et j'ai eu beaucoup besoin des explications de Martine, Pauline et Anne-Julie pour pouvoir un petit peu prendre mes marques dans leur travail. Alors tout de suite, faisons chemin ensemble et pour cela, demandons peut-être à la diablesse noire de vous emmener. Je vous expliquerai tout de suite de qui il s'agit. Mettons-nous dans la musique des années 70-80, concernée par les 27 ans, peut-être un peu plus.
Walking in the rain. Thank you.
Martine, on est ici à la, donc comment ça s'appelle, au Palais de l'Athénée, salle Cronier, c'est voilà. Ça, et où vous exposez le résultat d'un travail de recherche que vous avez fait aux Beaux-Arts dans le cadre de vos études. On aimerait peut-être d'abord savoir qui est réuni autour du micro aujourd'hui.
Alors, on est 6 réunis autour de ce micro aujourd'hui à l'occasion du vernissage de l'exposition qui s'appelle Environ 27 ans, peut-être un peu plus, pratique artistique et féminisme. Il y a autour de ce micro Catherine Kellos qui est professeure aux Beaux-Arts de l'atelier Sous-Sol, qui est un atelier de pratique critique et de commissaire d'exposition, en fait, pratique. Il y a Anne-Julie Raccourcier qui est une étudiante qui a participé au projet, Pauline Boudry qui est aussi étudiante et qui a participé au projet. Ursula Biemann qui est curatrice à la Chédalet à Zurich, à la Route et Fabrique et qui est artiste invitée dans le cadre de cette exposition, et moi-même, Martine Anderfroen.
Tu es donc aussi une des étudiantes qui a réalisé ce projet.
Exactement.
Alors, peut-être Catherine, tu pourrais, quelle eau, quatre fois, il faut expliquer. Là, je suis émue parce que je retrouve Catherine après tant d'années, alors ça fait aussi les Catherine se causent. Catherine, en tant que professeure de cet atelier Sous-Sol, l'idée c'est quoi fondamentalement de l'atelier? Comment le travail de Pauline, Martine et Anne-Julie s'insère dans la ligne habituelle de l'atelier Sous-Sol?
L'atelier a pour première préoccupation d'essayer de faire un travail critique de manière générale sur l'art, sur les pratiques artistiques et la culture dans un sens plus large. Et entre autres, bénéficie d'un lieu d'exposition. Donc, c'est aussi un outil pour essayer de mettre en pratique ces réflexions et ces discussions dans l'espace et d'essayer de leur donner une forme d'exposition. Et le travail est assez variable parce qu'il dépend en fait du groupe et des étudiants qui s'inscrivent dans le cours. Et parfois, les étudiants attendent un peu, comme dans un cours, que le professeur propose un sujet de travail. Mais d'autres fois, c'est ce qui est arrivé cette fois, les étudiants ont des idées très précises sur ce qu'ils ont envie de proposer. Et donc, j'essaye d'écouter ça et de suivre. Ce n'est pas toujours évident, parce que des fois, je suis un peu à la traîne, mais quand même, je suis. J'essaye.
Puis, atelier Sous-Sol, Catherine, c'est quoi? C'est lié au lieu où vous travaillez habituellement? Alors, ou c'est un grand sens épistémologique?
Non, absolument pas. En fait, c'est un cours que j'ai commencé au début des années... en 87, il y a 10 ans. Et il fallait trouver un nom à cet atelier. Et puis, comme on est au sous-sol du bâtiment de l'école et que la salle d'exposition a été créée là, on s'est dit que bêtement, on allait dire que le séminaire allait prendre place là et qu'on lui donnerait ce nom-là.
Pour commencer, on peut se demander si la désignation artiste femme est encore valable aujourd'hui. Doit-on encore utiliser ces termes, revendiqués à un moment particulier de l'histoire, avec le but de marquer l'irruption des femmes dans le monde de l'art tout en innovant leur discrimination? Jusqu'alors, utiliser la domination artiste-femme met une distance en même temps qu'elle crée un lien avec celle d'artiste, sous-entendu masculin. Cela implique une relation subordonnée et rebelle par rapport à l'idée dominante de ce qu'est un artiste. Il me semble qu'il faut se demander si un modèle binaire comme celui-ci ne renforce pas en lui-même les polarités et les iniquités, et si pour défier le pouvoir, on ne parle jamais d'artiste homme, d'artiste hétérosexuel, d'artiste blanc, la seule manière de placer la marge au centre n'est pas de résister à ce label.
Alors, je ne sais pas qui parmi Pauline, Anne-Julie ou Martine a envie de nous expliquer quelle était l'idée au point de départ. Qu'est-ce que vous avez proposé à Catherine Kellos au départ de la démarche? Alors, qui veut répondre
c'est
à ça?
C'est Pauline qui a été l'initiatrice du projet tout au départ parce qu'elle avait l'intention d'écrire son mémoire sur des pratiques artistiques féministes. Et dans ce cadre, elle a proposé à Sous-Sol de faire une recherche qui est partie à partir des expositions féministes qui ont eu lieu à partir des années 70, milieu des années 70 jusqu'à aujourd'hui. En Europe et aux États-Unis, et on a réuni au fur et à mesure du matériel, des documents, des catalogues, et on a un peu regardé ce qui était lié à ces catalogues, et au fur et à mesure, on a posé des jalons, que ce soit des artistes ou des pratiques qui faisaient qu'on allait à la rencontre d'autres artistes ou de commissaires, qui ont fait que petit à petit, on s'est intéressé à 8 artistes qu'on a choisis, artistes et commissaires, qui ont été en fait la base de cette démarche.
Clarifions peut-être le vocabulaire. Commissaire, c'est donc la personne qui est chargée d'organiser une exposition, c'est ça ?
Qui organise, qui, dans le sens traditionnel, invite des artistes à participer à une exposition ou alors met en place un dispositif qui permet à des artistes de faire une démarche à l'intérieur d'une exposition, que ce soit en groupe ou individuellement.
Est-ce que la préoccupation autour des pratiques féministes dans l'art est liée à vos propres préoccupations féministes ou c'est une recherche théorique purement ? Pauline ?
Non, évidemment que c'est lié à notre pratique personnelle. L'idée, c'était aussi de s'interroger sur ces questions-là parce qu'elles sont assez peu traitées dans notre environnement direct. Dans notre culture francophone, on a l'impression qu'on en parle assez peu. Et à l'école, on en parle pratiquement pas non plus. Et au fait, je pense que pour nous trois, c'était aussi une manière de découvrir une histoire d'un engagement féministe dans l'art et de le découvrir à partir de plusieurs personnes et à partir de discussions qu'on a eues avec ces personnes-là. Donc, aussi une autre chose qui était importante au départ, c'était notre position de ne pas séparer le féminisme d'autres préoccupations, parce que pour nous c'est clair que c'est quelque chose qui ne peut pas être séparé dans une pratique artistique. Et le féminisme est certainement un intérêt important, mais il y a évidemment toujours plusieurs autres choses qui entrent en jeu. Et l'idée c'était d'articuler ces différentes choses et comment elles s'imbriquent les unes avec les autres.
Je m'excuse, je ne comprends pas très bien là. Tu veux dire quoi ? On ne peut pas détacher le féminisme, l'art d'un féminisme en général ?
D'une part, il y a la pratique artistique. Donc, ce n'est pas simplement.
C'est pas en dehors d'un vécu, tu veux dire, par exemple.
C'est pas en dehors d'une expérience, ce n'est pas en dehors d'un contexte. C'est pas en dehors d'un contexte social, politique, personnel. Et d'autre part, évidemment qu'il y a la pratique artistique. Et dans une pratique artistique, entrent en jeu différents intérêts, différents engagements. Et le féminisme, pour les 8 personnes qu'on a interrogées, est certainement une réflexion qu'elles mènent parmi d'autres réflexions. Et au fait, notre idée, c'était d'essayer de mettre ça en relief. Par la discussion, en partant de différentes pièces réalisées dernièrement par ces 8 personnes. Et donc, nous avons interrogé 4 artistes qui vivent aux États-Unis et 4 artistes européennes, dont une artiste qui vit à Istanbul, qui est turque. Et qui ont chacune des positions très différentes, qu'on a pensé qui se complétaient assez bien et qui donnaient une sorte de panorama assez complet, assez large.
Le fait est que le féminisme et le féminisme en art sont des positions dont la raison est politique. Toute désignation a une fonction conditionnante, mais une action politique nécessite de nommer pour avoir d'abord une représentation, puis un effet concret dans la réalité sociale. Cela implique qu'une approche seulement déconstructive n'est pas concevable dans un discours politique. Malgré le fait que chaque personne est aussi autre chose que, par exemple, une femme ou une artiste femme, et qu'il semble indispensable de pluraliser les concepts qui permettent de définir l'identité de quelqu'un, je pense que l'emploi de tels termes est valable et nécessaire dans des circonstances précises. Ils sont à utiliser stratégiquement en connaissance des contradictions qui leur sont inhérentes. La question que l'on peut se poser est alors de savoir si aujourd'hui l'emploi de ces termes est pertinent pour notre propre situation. Peut-on constater des modifications assez importantes pour pouvoir dire que les conditions qui nous entourent aujourd'hui ont réellement changé depuis, disons, le début des années 70 ? En regard de cela, quelle position adopter aujourd'hui ? Martha Rosler, Le privé et le public, art féministe en Californie. Soula, alors vous avez été contactée à ce moment-là. Est-ce que ça vous a surpris, la démarche des trois étudiantes, ou est-ce que ça, effectivement, comme elle vient de le dire, fait partie d'une démarche que vous meniez de toute façon depuis longtemps dans votre travail d'artiste ou de commissaire, puisque visiblement vous organisez aussi des expositions à la Roté-Fabrique.
C'est vrai, je suis plus souvent dans la situation où j'initie des projets et puis j'ai le plaisir d'inviter les autres. Et cette fois-ci, c'était l'inverse. Et je trouvais vraiment très encourageant et vraiment super qu'une jeune génération prend cette initiative de d'écrire un bout d'histoire qui est d'habitude toujours laissé en dehors. Ils m'ont posé beaucoup de questions pendant l'interview que moi, je ne me suis pas posée dans les années passées.
Par exemple, vous vous souvenez d'une question ?
J'avais vraiment une crise d'identité après ce week-end. Et je me suis dit, non, c'était surtout des questions de m'exprimer sur la relation entre ma pratique artistique et la théorie féministe. Et pour moi, la théorie féministe, c'est quelque chose que je lis depuis des années, mais je l'ai internalisé énormément et ça sort à travers de mon travail de nouveau sans que je peux vraiment l'articuler comme ça. Alors ne me posez pas de questions là-dessus, s'il vous plaît. Pour moi, même pendant les études d'art, c'était très clair que je voulais toujours combiner, que je voulais introduire une perspective féministe sur tout ce que je faisais. Il se trouvait que c'était l'art, parmi autres choses. Et une pratique féministe artistique voulait toujours dire avoir un pied à l'intérieur de l'espace d'art, avoir un autre pied dehors dans l'espace social. Et j'entends que beaucoup de féministes travaillent comme ça.
Est-ce que, comme disait Pauline tout à l'heure, le féminisme dans les pratiques artistiques, c'est une chose qui n'a pas beaucoup de place dans l'environnement général ? Par exemple, dans leur école, on pose peu la question comme ça, disent-elles. Est-ce que vous ressentez cette difficulté quand vous cherchez à organiser des expositions aussi ? C'est une difficulté auquel vous vous heurtez ?
C'est-à-dire, on a de la chance d'être dans une position de pouvoir un peu, parce qu'on est cinq féministes qui ont une institution, qui ont de l'argent, qui ont un espace très grand, et parce que nous avons un très fort intérêt féministe, notre programme se fait par rapport à ça. Et je crois que le public à Zurich était un peu surpris de voir que on fait un projet féministe et puis on retourne à l'habituel après, mais que c'est un projet après l'autre qui a cette perspective. Et moi, je crois que c'était
Alors peut-être je dois vous poser la question, parce que comme je ne connaissais pas l'histoire de votre projet, c'est alors si d'obtenir cette situation, c'est-à-dire d'être cinq femmes à pouvoir organiser des expositions sur féministes, est-ce que ça, ça a été dur à obtenir?
Ça s'est passé parce que l'espace voulait avoir un programme plus progressif qui voulait justement travailler d'une façon plus interdisciplinaire, plus communicative, etc. C'est les femmes qui ont mis à disposition des concepts d'une programmation pour cet espace qui était la plus intéressante. Je veux dire, c'était pas par rapport à leur position féministe, particulièrement ou non pas parce que c'était des femmes. Ils n'ont pas été choisies pour ça.
Il me paraît clair que la situation des femmes et de la petite partie des femmes engagées dans une pratique artistique n'a pas radicalement changé pendant ces 30 dernières années. D'une manière générale, si l'on peut constater en Suisse plus d'égalité au niveau juridique, il reste toujours autant d'inégalités économiques, sociales et politiques. À la fin des années 90, on peut remarquer qu'une grande partie des revendications des mouvements féministes n'a pas encore été réellement prise en considération. Les femmes en Suisse gagnent encore un tiers de moins que les hommes. Le droit à l'avortement n'a pas encore été reconnu au niveau légal. Le travail éducatif et ménager n'est pas reconnu. L'assurance maternité n'a pas encore été instituée. La violence envers les femmes n'a pas diminué, etc. Légal Les galeries et les musées ne représentent en moyenne que 20% des travaux des femmes. Si dans les domaines socio-économiques et politiques, on constate peu de progression, par contre, on peut observer des contributions importantes dans l'évolution des discours théoriques et des pratiques artistiques. Il me semble intéressant d'en examiner quelques-uns, sans avoir la prétention de faire un historique. J'ai choisi trois exemples d'expositions parmi beaucoup d'autres pour articuler et argumenter différentes approches artistiques ayant pris en charge des questions soulevées par le féminisme. Ces trois expositions ont eu lieu à différentes époques et dans différentes villes. Elles m'ont paru intéressantes pour des raisons particulières à chacune. J'essaierai de dégager quelques questions traitées au travers de ces expositions et d'estimer quelles sont les implications de leurs discours réciproques. Martha Rosler, le privé, le public, art féministe en Californie et en Suisse. Vous êtes toujours dans Remue Ménage. Nous rencontrons six femmes, trois jeunes femmes qui ont construit tout un projet autour de pratiques artistiques et féminisme. C'est une exposition que vous pouvez voir jusqu'au 22 mars au Palais de l'Athénée à la salle Cronier. C'est ouvert de 14h à 18h du lundi au vendredi et le samedi de 10h à 12h et de 14 à 17h, je répète, donc jusqu'au 22 mars. Et nous les rencontrons entourées d'une part de leur professeur qui a suivi leur travail, Catherine Kello, et d'Ursula Biemann, qui est à la fois artiste contemporaine elle-même et puis curatrice, c'est-à-dire qui organise elle-même des expositions. Dans quelques instants, nous les retrouvons dans la salle de l'Athénée où a lieu leur exposition.
Wir glauben, was wir wissen und wir fürchten uns. Wohl, weil wir sterben müssen, das verängstigt uns. Wir sind die Lebenden. Morgens früh an unser Ende denken, dann kann uns dieses Wissen durch die Tagzeit lenken, weil wir leben können. Und sterben können. freut. Wir haben keine Zeit, wir tun uns selber leid. Wir vegetieren, wir rasen und still leben.
Alors, revenons à votre étude. Est-ce qu'il est possible que vous nous décriviez les étapes essentielles? Comment vous avez procédé? Quels étaient les sujets en particulier qui vous intéressaient de distinguer dans l'ensemble du cadre que vous avez précité tout à l'heure?
Alors, je pense Martine? Que la chose fondamentale du départ de l'exposition, c'était de partir à partir des interviews. Donc, on a interviewé ces 8 artistes, chacune... sur des questions féministes, mais aussi sur leurs pratiques personnelles, en essayant d'articuler ces deux pôles. Et puis, on voulait monter cette exposition à partir de ces interviews. Alors, l'exposition se structure à partir des interviews qui sont visibles en vidéo, dans une espèce de bibliothèque avec toutes les vidéos de toutes les interviews qui sont assez longs et grands. Et puis, pour chaque artiste, on leur a demandé des documents qui soient ou des pièces artistiques ou alors des documents qu'elles trouvent intéressants pour la discussion ou pour le propos. Et donc c'est une exposition qui est mixte entre des documents qui sont ou des fanzines, ou des journaux, ou des cartes d'invitation à des expositions, ou des documents qui sont en vidéo, des interviews d'autres situations, ou alors des pièces qui sont des pièces artistiques. Et pour chacune, il y a dans l'espace... un mélange de ces divers documents. Ça, c'était important. Et puis, dans l'espace, il y a des petits extraits des interviews qui structurent l'exposition entière. Pour chacune, le rouge est un peu un fil conducteur dans l'exposition. Non seulement le catalogue est rouge, mais les meubles sont rouges. La ligne de frontière de la pièce d'Ursula est aussi rouge. L'affiche est rouge.
Et alors, pourquoi ce rouge?
Alors, ça, c'est à Pauline à répondre.
Pauline?
C'est un choix subjectif, complètement subjectif. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus.
Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de visiter une exposition d'art contemporain, comme moi par exemple, quel moyen j'ai de comprendre vite ce qui vous intéressait de sonder? Est-ce que c'est comment une femme fait passer ses préoccupations dans sa démarche artistique? Est-ce que c'est les rapports qu'elle a avec le monde de l'art? Est-ce comme femme? Je ne sais pas, comment on peut essayer de percevoir vos préoccupations? Puisque c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de découvrir ce que vous avez voulu mettre en évidence.
Je pense qu'il y a toutes ces choses-là qui entrent en jeu et justement on a essayé de les mettre en valeur les unes par rapport aux autres, sans forcément mettre plus l'accent sur une chose que sur l'autre. Mais
alors comment je vais comprendre ça? Comment vous me conseillez de faire la visite de l'exposition? Oui, Anduli.
En fait, l'exposition n'est pas vraiment une exposition comme on a l'habitude d'en voir, par exemple au Palais de l'Athénée, à la Salle Cronier. Généralement, il y a des œuvres d'art ou des tableaux qui sont l'une après l'autre, on les regarde et après on rentre chez soi. Là, ce serait plutôt un espèce de mélange d'objets et plutôt le spectateur peut se créer lui-même sa façon de voir avec des détails. C'est plutôt des, soit il y a des publicités, il y a des vidéos, il y a des...
Oui, mais à prime abord, je ne trouve pas très simple d'aborder ça. Hein, quand je me dis, mais est-ce que je vois, j'ai le travail d'Ursula sous mes yeux, je me dis, mais... En quoi il y a une démarche féministe? Je vois qu'elle interroge une femme qui lui raconte... je ne sais pas, j'aurais besoin malgré tout de quelques petites pistes pour savoir comment entrer là-dedans. Ou bien alors je reste des heures en allant d'abord écouter toutes les interviews, je ne sais pas. Mais c'est une sacrée démarche que vous exigez.